Il est 16h sur Campus FM 100.6.
Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Une émission de bande dessinée présentée par Patrick Pinchard. Quatrième volume de notre hommage à Hergé, où nous traiterons du graphisme hergéen en compagnie de trois spécialistes: Pierre Sterckx, directeur de l'école de recherche graphique à Saint-Luc, Thierry Smolderen, écrivain, et François Skeuten, dessinateur de bande dessinée. C'est bien sûr Michel Campus qui s'occupe de la régie, et nous entendrons les voix de Paul Hermand, Michel Cédric, Stéphane Steman, François Rivière, Bob Demour, Vincent Baudou, Alain Goffin, Jacques Tardy, et bien sûr Hergé. Pierre Sterckx, François Skeuten et Thierry Smolderen sont aujourd'hui nos invités pour parler des caractéristiques graphiques d'Hergé. Alors avant de nous lancer dans la découverte du graphisme d'Hergé arrivé à maturité, je voudrais qu'on essaie de cerner durant quelques minutes le Hergé des débuts, le Hergé des erreurs de jeunesse entre guillemets, pour voir l'immense pas qui a peut-être été franchi par Hergé lorsqu'il est arrivé à maturité. Tout d'abord, les soviets, évidemment, les soviets qui débutent très mal puisque Hergé n'est pas du tout au point graphiquement. Quelles étaient les caractéristiques de l'époque qui ont évolué par la suite et qui vont disparaître surtout par la suite?
Vous parlez des caractéristiques de son dessin?
Oui.
Dans les soviets? Je ne sais pas, moi cet album-là ne m'a jamais fasciné, je n'ai pas une vision très précise, mais il me semble que le grief global qu'on puisse faire à cette seule erreur de jeunesse, parce qu'il y en a une seule, c'est que c'est un dessin qui n'a aucune probité. C'est un mot que j'emploie très pesamment. C'est un mot qu'un grand employait quand il disait que le dessin était la probité de l'art. Et le dessin des soviets n'a aucune probité. C'est-à-dire qu'il ne respecte pas un échange économique honnête entre le référent, donc le réel. Le référent, c'est le signe du réel. Mmh. Et l'expressif de l'artiste. Alors à partir du moment où cette balance est faussée par une projection expressionniste abusive ou bien par une référence abusive à une projection idéologique, ce qui est le cas des soviets, c'est la pensée de la droite, c'est une information de droite qui préjuge de la lecture de la Russie. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de probité dans l'art, c'est-à-dire il n'y a plus de dessin. Alors pour moi donc c'est un dessin qui n'est pas propre parce qu'il n'a pas examiné le dossier. Et alors évidemment aussi, toutes les excuses pour Hergé, hein. Et en même temps c'est un dessin qui est encore bourré de citations mal digérées ou d'emprunts à des gros plans de cinéma ou à des auteurs américains ou français ou peu importe à quoi. Et donc par conséquent, globalement, c'est un dessin qui n'a pas de probité, quoi, qui n'a pas d'honnêteté, mmh. Voilà, qui n'a pas une économie probe, c'est tout.
Et tu veux dire donc que les qualités d'Hergé étaient déjà présentes dès Tintin Congo?
Dans le Congo, c'est pas tout à fait au point non plus. Mais disons que ça devient un petit peu moins agaçant. Enfin, pour moi, ça devient un petit peu moins agaçant. Mais on pourrait presque dire, oui, un peu presque la même chose. L'Afrique est encore que tout de même. Il faut nuancer. Hein. La façon dont Hergé prend note de certaines forces. Donc, par exemple, les animaux, même s'il les affronte avec violence et s'il les détruit. Hein. Bon, c'était l'époque de la chasse. Sans morale, mm-hmm. Enfin, pour peu qu'une chasse ait jamais de la morale. Il y a tout de même déjà un petit pas en avant vers la reconnaissance de certaines intensités qui sont africaines, quoi, une espèce de les sorciers, les girafes, les rhinocéros, ou les caméras, ou les choses comme ça, ou les bushmen fer, tout prend une espèce de force immanente qui me paraît déjà un petit peu plus proche d'un climat qui serait l'Afrique, bon, même si elle est vue un peu par les colonialistes, c'est tout de même déjà l'Afrique. Tandis que chez les soviets, moi, je ne vois rien. Je ne vois pas de Russie, je ne vois pas de steppe, je ne vois rien. Je vois un système projectif qui se promène. Donc, il y a une différence entre les deux albums. François, en tant que graphiste, des choses à dire sur le sujet?
Non, tu as bien résumé le problème. Je crois qu'effectivement, le dessin est encore très, très mal habile. Il sait pas très bien où il va encore. C'est un peu bizarre. Mm-hmm. C'est vrai, on s'y perd un peu.
Ses premiers albums, en fait, n'ont pas tellement les faveurs des analystes d'Hergé, plutôt des critiques et des détracteurs d'Hergé. Toi, Thierry, tu t'es attaché à un album particulier qui est Les Cigares du Pharaon. Qu'est-ce que tu trouvais de passionnant dans Les Cigares du Pharaon?
Je pense que Les Cigares du Pharaon font une sorte de rupture par rapport aux trois premiers albums, qui sont Les Soviets, le Congo, puis l'Amérique. Bon, étudiant les grands continents politiques de... les grands systèmes de signes qui faisaient l'actualité à l'époque, donc, c'est-à-dire les soviets, la grande peur de la Russie, le Congo, le grand exotisme colonialiste, et puis l'Amérique de la prohibition et tous les films et toutes les images que cela sous-entend. Hergé avait fait le tour à peu près des grandes choses exotiques, des grands voyages qu'un reporter pouvait faire. Bon, alors il commence avec les cigares du pharaon, envoyer Tintin au Proche-Orient, avec le projet de le faire envoyer plus tard en Extrême-Orient, donc en Chine. Et là, visiblement, il a encore moins d'informations sur le pays où il envoie Tintin que sur les trois précédents. Donc les trois précédents reprennent des détails journalistiques vraiment d'actualité classique. J'imagine que dans le Congo, dans l'Amérique, les soviets, ils ne faisaient que reprendre des anecdotes pittoresques, des choses qui devaient circuler à ce moment-là dans les médias. Mais quand il envoie Tintin au Proche-Orient, peut-être ne se passe-t-il pas grand-chose là-bas, peut-être n'a-t-il pas d'exemple vraiment bien net sur ce qui peut se passer là-bas, ce qui fait qu'il doit faire vraiment appel à son imagination. En plus, il avait un rythme de production très élevé à l'époque. Et les cigares du pharaon, ce qui m'intéresse peut-être le plus là-dedans, c'est que ils sont faits et sont dessinés avec une difficulté terrible, avec une sorte de peur de ne pas arriver au bout de cette histoire. Et il me semble qu'à ce moment-là, Hergé, le graphiste, le dessinateur Hergé, prend un peu le relais du raconteur d'histoire, de l'anecdotiste Hergé qui triomphait dans les trois précédents. C'est-à-dire le gagman Hergé, tout d'un coup, ne trouve plus tellement de sujets à créer des aventures, des anecdotes, et tout d'un coup le graphiste reprend le dessus. Et les cigares du pharaon sont probablement le moment où Hergé devient un graphiste très intéressant. Et si j'ai sous les yeux le petit 20e, le supplément au 20e siècle du 19 janvier 1933, le numéro 1, et je viens de regarder ça avec François Scuten qui est un dessinateur de bande dessinée actuelle, etc. Et on est en train de regarder l'image de couverture de ça, qui est une sorte de couverture inédite pour Les Cigares du Pharaon. Il y en a trois, je crois, ou quatre différentes qui existent de couverture pour Les Cigares du Pharaon. C'est toujours Tintin se promenant dans la crypte pharaonique. Et quand on regarde cette image, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui apparaît, quoi, qui a un sens... un sens graphique, une façon de composer l'image.
Une audace de placer le personnage à cette dimension par rapport au décor pour le donner plus important, plus...
C'est ça, il y a un très petit Tintin dans cette image. J'étais d'ailleurs, j'avais montré cette image à un garçon qui a 5-6 ans et qui est un spécialiste de Tintin, qui ne sait pas encore lire ni écrire, mais qui connaît tous les titres de Tintin, qui peut les replacer dans chaque image, etc., qui est capable de reconnaître au quart de poil une image et la situer dans un album. Je lui ai montré cette image-là. Il a dit « Oh là là, quel petit Tintin !» Et en effet, le petit Tintin est coupé à... Bon, ce n'est pas la télévision ici, on est obligé de parler de ça, de la décrire, l'image. Il y a un tout petit Tintin situé devant une sorte de fresque pharaonique où les personnages sont gigantesques. Mm-hmm. Et là, je crois qu'Hergé se rend compte qu'il est en train de s'attaquer à une culture qui n'est plus celle des gangsters ou des petits noirs, des petits boys du Congo ou des méchants soviets, mais il s'attaque à quelque chose qui est de l'ordre de l'image, qui est les pharaons, et il commence à peut-être à se poser des questions qui vont le mener aux grandes questions du Lotus Bleu par rapport à une culture. Hein.
Oui, je crois qu'il se pose aussi la question de la peinture. Ouais, parce qu'il rencontre la fresque égyptienne, et la fresque égyptienne, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que un espace tactile, un espace qui est frotté, sculpté dans la pierre calcaire, est en même temps un espace visuel. Alors la bande dessinée est un espace tactile et un espace visuel. Enfin, les albums que les enfants manipulent, c'est des choses qu'ils manipulent de très très près, avec les mains, le nez et les yeux. Et je pense qu'Hergé a rencontré à ce moment-là, et c'est peut-être pour ça que François est tellement admiratif, il a rencontré la peinture.
Oui, en plus, il y a une intégration, je trouve, de la technique graphique des Égyptiens et de la manière dont Hergé intègre son personnage. Le trait d'Hergé, ce côté, ce petit fil de fer qui personnifie le personnage, qui donne l'image du personnage. Et c'est les Égyptiens qui travaillaient au trait, je veux dire, qui donnaient un trait un peu plat, comme ça. Ça s'intègre très bien. Je trouve, on retrouve une rigueur. Et ça fonctionne merveilleusement bien. On est dans le même esprit, je veux dire. Il n'y a pas, de décalage.
Mm-hmm. Puis on verra tantôt sur le sujet, je ne sais pas.
Oui, enfin, tout ce qu'on peut dire déjà, de toute façon, c'est que Hergé se sent très petit par rapport à l'art des pharaons. Il découvre quelque chose. Et bon, ça va le mener à des découvertes encore plus extraordinaires, hein, notamment la découverte de la Chine, qui va être fondamentale pour ce qui va
On va revenir juste après l'illustration qui suit, qui a été un extrait d'une interview de Paul Hermand, spécialiste et critique de bande dessinée, qui va faire un état de la bande dessinée à l'époque où Hergé a dessiné ses premiers albums, et puis Hergé aussi, qui parlera des influences qu'il a subies au début.
Les deux grandes influences d'Hergé sont Benjamin Rabier d'une part, et d'ailleurs dans Tintin au pays des serviettes, il y a une page qui je crois déjà été analysée par beaucoup, où il y a cette fuite d'animaux et on reconnaît entre autres la vache qui rit, si on peut dire, enfin donc les animaux qui rient, qui était donc la grande spécialité de Benjamin Rabier. À signaler aussi donc qu'un personnage de Benjamin Rabier s'appelait aussi Tintin ou Titin, plutôt le lutin, et que, bon, certains ont dit est-ce qu'il y avait copiage ou pas copiage, ou... Bon, je ne pense pas, je crois d'ailleurs qu'Hergé lui-même ne se souvient pas s'il a vu cet album, mais du moins, il a vu Benjamin Rabier, et ça, il n'a jamais... il l'a toujours reconnu. Et alors, l'autre grande influence, c'est Joe MacManus, de la famille Lico, dont il empruntait les nez. Donc, c'est... Donc, il est bringing a father... à cette particularité d'avoir des nez ronds à tous les visages. Et bon, ben, il a trouvé ça, disons, je dirais, facile. C'était une technique qu'il a utilisée, qui était évidemment assez intéressante pour l'époque. Étant donné qu'au fond, quand on compare ce qui se faisait un peu en illustration à l'époque en France et en Belgique avant-guerre, à part Saint-Organ, le dessin était très souvent très, très réaliste. Et donc, se prêtait peut-être pas encore très, très bien à la bande dessinée. Hein. Si on feuillette des journaux comme Illustré National ou... Il y a, je dirais, de cette bande dessinée préhistorique, donc texte-image. Il y a beaucoup de dessins de grande envolée, mais qui n'ont peut-être pas assez de souplesse pour donner une bonne bande dessinée, du moins un récit narratif. Alors, disons que la troisième influence, c'est Alain Saint-Augan, donc au niveau de l'exploitation des ballons, et que d'ailleurs Hergé ira voir à une époque, et que Alain Saint-Augan lui offrira d'ailleurs une planche qu'Hergé conserve toujours.
C'est un mode d'expression, hein, raconter une histoire. C'est justement pas la beauté du dessin qui m'intéresse, là, vous avez raison, c'est pas du point de vue esthétique, mais du point de vue expressif, du point de vue expressionniste, je dirais. C'est du point de vue de l'expression, en tout cas. un dessin, pour moi, s'il est beau, tant mieux, mais c'est pas ça, surtout dans la bande dessinée, c'est avant tout raconter une histoire, la raconter au moyen de dessins et de dialogues, l'un qui est complétant l'autre, et le dessin, avant tout, doit apporter une information. Donc la beauté, pardon.
Il doit être efficace,
il doit être efficace, absolument.
Mais le dessin, vous en faisiez déjà tout petit garçon?
Oui.
Pour raconter des histoires, précisément?
J'ai fait ça pendant ma prime jeunesse. Je me racontais des histoires et en effet, je les griffonnais dans le bas de mes cahiers. Je me souviens d'un petit personnage que je dessinais, mais il n'a jamais eu de nom, je crois, et je ne sais plus comment il était, ses cahiers ont disparu, bien sûr. Je me racontais des histoires. C'était plus pour ne pas les oublier que je fixais les points forts de l'histoire. Je n'ai rien conservé de ça.
C'est dommage.
Wow, oui.
Mais vous n'avez jamais suivi de cours de dessin, rien du tout. Vous avez été influencé par des dessinateurs, peut-être.
Oui, sûrement.
C'était qui à l'époque?
Et le premier dessinateur qui m'a fortement influencé, je crois que c'est un nommé Pierre X, qui était un dessinateur de scoutisme également, et qui avait un dessin très élégant, et qui était très précis aussi dans ses dessins. C'est surtout Pierre X. Après ça, il y a eu toutes sortes de dessinateurs.
Alain Saint-Augan,
bien entendu. Mais avant ça, même, il y avait, parce que j'ai fait de la publicité aussi, il y avait des dessinateurs français qui étaient absolument comme René Vincent, par exemple, dont vous n'avez certainement jamais entendu parler. Mais enfin, c'est un dessinateur de mode et de publicitaire, d'ailleurs, et dont le dessin était extrêmement élégant, et qui me fascinait à l'époque. Alors, Alain Saint-Augan, les Américains, Joe McManus, par exemple, qui m'a beaucoup influencé, lui.
Vous avez dit aussi que c'était le cinéma qui vous avait fortement aidé en ce qui concerne le découpage, des choses plus techniques.
Je trouve qu'il y a des analogies donc entre le cinéma et la bande dessinée, en ce sens que les plans, évidemment, ils sont immobiles dans le dessin, mais les plans sont exactement les mêmes plans. La façon de découper une histoire me paraît, évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ça me paraît être en tout cas analogue. Le découpage de cinéma et le découpage d'une planche de bande dessinée sont très proches l'un de l'autre, avec cette différence que l'un bouge et l'autre ne bouge pas.
C'est Charlot que vous aimiez bien, au cinéma?
Ah oui, Charlot sûrement. Et Harry Langdon, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui.
Oui.
Un merveilleux comique aussi, un peu plus triste encore, un peu, mais très très beau, très beau.
Les westerns, vous deviez aimer
ça? Oui,
ça.
Bien entendu, les westerns.
Enfin, il y avait un côté de western que vous ne deviez pas apprécier, quand même, les cow-boys étaient toujours les meilleurs.
Mais oui, eh bien, curieusement, j'étais pas encore à ce point-là, quand même, je trouvais quand même, enfin, inconsciemment, c'était les bons, c'est-à-dire les cow-boys qui devaient gagner. Ça, c'est quand on jouait cow-boy indien, c'était toujours les blancs qui gagnaient, les peaux rouges, ça finissait toujours très mal.
Nous avions entendu une interview de Paul Hermant et une interview d'Hergé réalisée par Michel Cédric pour la RTB. Nous étions arrivés au Lotus Bleu. À l'occasion du retour de Chang l'année passée, tout le monde a décrit son importance quant à l'honnêteté de la représentation des pays dessinés par Hergé. Quelle fut son importance dans le graphisme d'Hergé?
Et ça, il l'a dit et répété de nombreuses fois, ça a été le moment décisif de sa carrière et de sa pensée. Car Chang lui a apporté l'accès à un type de dessin que Hergé n'avait pas entrevu. On a parlé tout à l'heure de l'Égypte. C'est vrai qu'il y a eu un premier contact, et c'est l'album juste avant, hein, Les Cigares, précède le Lotus. Il y avait déjà eu un premier contact avec la peinture. Mais comme Hergé me l'a dit lui-même, il était tellement inculte à la sortie de ses humanités à l'Institut Saint-Boniface. Et je crois que, bon, on peut dire qu'on était souvent tous incultes à la sortie des humanités, où qu'elles se fassent, qu'il n'avait aucune idée de ce que pouvait être un monde graphique ou un sens graphique quelconque. Bon, il avait donc besoin d'un professeur, un initiateur, et le jeune Chang, qui lui possédait le code de l'art chinois, lui a donné des petits livres qu'il a toujours gardés, que j'ai vus, où on apprend comment faire un. Par exemple, comment dessiner un arbre avec un pinceau et obtenir 4 ou 5 traits différents, suivant l'ancrage ou l'appui du pinceau sur le papier, des choses comme ça. Et puis aussi comment dessiner un personnage habillé en soulignant les intervalles entre la peau et le costume. Donc en soulevant le pinceau où il faut pour que les choses bougent et vivent. Car l'art chinois est un art extrêmement codé, c'est-à-dire abstrait, d'une certaine manière, comme tout grand dessin, toute grande ligne de dessin est abstraite, élémentale, comme disait Vinci. Mais en même temps, tout grand dessin est imitatif, puisque image, c'est imitar, et c'est le même radical que imitar. Donc Hergé, je crois que là, il a encaissé quelque chose de fondamental, c'est l'ambivalence du dessin, à la fois code abstrait et rigoureux, et à la fois imitation de la vie, de la nature. Et ça, c'est Cheng qui lui a tout appris. En quelques, je ne sais pas, peut-être en un an, ça a dû être assez rapide, puisque c'était pendant qu'il travaillait sur le lotus qu'il a appris tout ça. Et ça a été décisif pour toute son existence.
Est-ce que c'est une évolution progressive, ou on remarque réellement une différence entre l'album précédent, Les cigares du pharaon, et le lotus bleu?
Non, il y a une rupture.
Il y a vraiment une rupture fondamentale. D'abord, il y a une rupture au niveau scénario. Les cigares du pharaon sont visiblement un album qui est créé comme un feuilleton au jour le jour, dans lequel Hergé visiblement passe d'un épisode à l'autre sans savoir très bien où il va, sans très bien savoir qui est le vrai méchant, quelle est la raison pour laquelle tout le monde court. Il invente ça au fur et à mesure.
D'où la terreur du kiosque, comme tu disais.
Oui, c'est ça, le signe du kiosque, c'est le signe de la peur d'avoir à remettre les planches à temps pour que le journal soit affiché au kiosque au bon moment, tous les mercredis après-midi ou quelque chose comme ça. Les cigares du pharaon sont donc une sorte d'univers feuilleté. Moi, j'appelle ça un univers feuilleté, c'est-à-dire un univers qui se crée au fur et à mesure que les feuilles apparaissent. Ça n'appartient qu'à la bande dessinée, les univers feuilletés. C'est, à mon avis, beaucoup plus beau que le cinéma. Et Hergé l'a fait dans Les cigares du pharaon, Mébus l'a fait dans une autre aventure qui s'appelle Les garages hermétiques. Ce sont les deux grands albums qui sont des univers feuilletés. Mais après Les cigares du pharaon, Mébus passe au... Hergé passe au Lotus Bleu. Et là, il entre dans un univers qui est un univers qui existe à côté de lui, qui est l'univers que Cheng va lui indiquer. Et là, il fait révérence, quoi. Il écoute, il regarde la situation politique, il voit les détails de ça, il voit les subtilités, les Japonais, qu'est-ce que c'est, etc. Il entre dans le jeu, et d'ailleurs, son histoire du Lotus Bleu est extrêmement compliquée. Moi, je n'ai jamais réussi à comprendre exactement ce qui se passait dans le Lotus Bleu. C'est quelque chose qui n'est pas possible de se dire comme ça en un mot. Contrairement aux certains autres grands voyages d'Hergé, Lotus Bleu, c'est une histoire très compliquée où l'histoire de Cam, l'histoire de politique et des bandits de toutes sortes. Et puis il y a des différents types de méchants. Il y a les méchants colonialistes, il y a les méchants japonais, etc. C'est un univers beaucoup plus multidimensionnel, mais qui est dont chaque péripétie est vraiment bien étudiée à l'avance. Et le dessin tient compte du noir et du blanc, ce qui n'était pas encore le cas dans Les cigares du pharaon. Dans Les cigares du pharaon, on avait le blanc cerné d'un trait noir, très peu d'ombre, très peu d'effets noir-blanc, à part la double page très importante dans laquelle Tintin est transporté de la crypte du pharaon dans le bateau. Donc ça doit être la 8e ou la 9e page de l'album, non, un peu plus que ça. À ce moment-là, c'est du noir sur blanc, parce que c'est des ombres qui agissent à ce moment-là. C'est après une sorte de mort symbolique de Tintin. Eh bien, dans Les cigares du pharaon, on revoit ce même type d'image, mais très très bien comprise, avec l'égalité du noir et du blanc, et c'est déjà le Tao de Cheng, à mon avis. Cheng lui a fait des leçons de dessin, et le Tao, dont Hergé d'ailleurs est toujours un partisan et un étudiant...
Il vient de m'écrire une carte de Suisse en disant qu'il lisait du Tao au bord de la piscine pour changer un peu. C'est très drôle parce qu'il fait que ça depuis 30 ans. Je sais pas, il est un expert pour changer un peu.
De toute façon, on fait du Tao pour changer.
Oui, mais de toute manière, je voulais dire que dans Les cigares, Hergé avait déjà approché mais d'une façon très, très, très fine et très ponctuelle, il avait déjà approché la lecture des grands signes dans lesquels il y a autant de philosophie que de dessin. Et le signe du kiosque, du tombeau du pharaon, le signe de kiosque que les lecteurs de Tintin connaissent bien, je vais essayer de le décrire en deux mots, c'est un cercle traversée par une ligne verticale molle, ondoyante, avec un petit point noir à l'intérieur de l'hémisphère gauche du cercle et un petit point noir en dessous à droite, hors du cercle. Eh bien, je lui ai demandé s'il y avait un rapport entre ce signe du kiosque et le signe du Tao, que tous les lecteurs doivent connaître en principe, qui est un cercle divisé à l'intérieur de lui-même par un S, un grand S inscrit dans le cercle, un hémisphère noir, un hémisphère blanc. Dans l'hémisphère noir, un petit point blanc, je dirais enfin en, dans le creux de la boucle, et dans l'hémisphère blanc, un petit point noir dans la fin de la boucle. Et il m'a dit effectivement que c'était déjà le signe du Tao qui lui avait accroché l'œil avant d'avoir rencontré Chang et qu'il l'avait adapté à sa manière dans les cigares. Adapté à sa manière, c'est-à-dire qu'il en a fait un signe complètement désintégré alors que le Tao est un signe intégrant. Puisque dans le signe du Tao, les deux petits points sont complémentaires à l'intérieur de la sphère, tandis que dans le signe de kiosque, il y a un point qui se promène dehors, image même de l'occidental désintégrant et désintégré, qui ne parvient jamais à faire des synthèses, qui essaie toujours de se situer par rapport à un système. Mm-hmm. Donc tout ça est en route.
Il y avait donc déjà une forte symbolique dans les premiers albums de Tintin, à condition de savoir les relire.
Oui, tout est inconscient chez Hergé. Mm-hmm. Comme disait Michel Serres, tant mieux, c'est ce qui est le plus profond. Et c'est vrai, ça vient du profond de l'inconscient, ça produit des signes et ça rencontre des signes au nom de l'inconscient. Bien que quand Hergé parle, c'est toujours au nom de la conscientisation. Mais l'homme lui-même, il est profond comme l'inconscient. C'est ça qui est un paradoxe vivant chez cet homme-là.
Mmh. François, dans le livre cassette Hergé, réalisé par Bona Peter, tu as affirmé que Hergé avait codifié la bande dessinée. Qu'est-ce que Hergé a apporté au code bande dessinée?
Disons que j'ai l'impression que quand on voit tout ce qu'il a apporté au niveau des petits détails, de petits éléments qui en donnent un peu l'expressivité, même des gens comme Jigé qui ont créé une école complètement différente, je veux dire une école beaucoup plus travaillant sous d'autres optiques, c'est très fort influencé dans les rapports ne fût-ce que d'image à image, dans la lisibilité, dans l'intégration du texte, de la bulle. Il a amené toute une série de petites choses qui sont pour l'instant très importantes et qui donnent un petit peu la notion, l'expression qu'on voit pour l'instant de la bande dessinée. Mm-hmm. Sans s'en rendre compte, c'est un peu lui qui lui a donné son expression définitive. Voilà.
Bien, nous allons entendre maintenant Hergé, toujours au micro de Michel Cédric, parler de la documentation et toute l'importance de la documentation dans l'élaboration de ses albums.